Oui, merci. Merci, monsieur le professeur, monsieur le président. Madame le doyen, c'est vrai, je ne sais pas si je fais partie de votre fan club, mais c'est avec une certaine émotion que je vous retrouve 13 ans, 14 ans après une soutenance de thèse à Angers. Vous m'avez posé des questions évidemment fort pertinentes. Je ne sais pas si les réponses l'étaient, mais j'avais pris grand plaisir à cette soutenance et a priori, la soutenance a porté ses fruits derrière. Même si je n'ai pas continué sur le contrat pur, mais je suis parti un petit peu sur la responsabilité médicale. Donc je vais parler avec vous aujourd'hui, ce matin, de la faute de technique médicale, qui est une construction assez récente, comme vous le savez, et peut-être que certains professionnels de santé regrettent ce temps maintenant révolu, ce temps où l'art médical relevait du sacré et attaquer le médecin relevait du sacrilège. Je vous citerai simplement Ambroise Paré. Ambroise Paré pouvait écrire à son époque « Je le pensais, P-A-N-S-A-I, Dieu le guérit s'il le veut ». Donc il n'y avait pas à l'époque de responsabilité médicale, pas de faute technique. Nous étions dans l'art médical ultra protégé. Et puis le XXe siècle est arrivé et un arrêt que tout le monde connaît sans doute, l'arrêt Mercier de 1936, qui va avoir deux apports. D'abord de créer une relation contractuelle entre le patient et le médecin, le professionnel de santé. Et deuxième apport, c'est de qualifier l'obligation attendue de ce professionnel de santé. L'arrêt Mercier nous dit que, bien évidemment, le médecin ne s'engage pas à guérir son patient. Il va s'efforcer, il prend l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentif et réserve faite de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science. Donc nous avons une responsabilité médicale qui est clairement posée pour faute. Et à l'époque, on n'envisageait que la faute technique. Responsabilité pour faute, les années passent, on arrive à la loi de 2002. Est-ce que la loi Kouchner a modifié le sens de cette responsabilité? Non, c'est toujours une responsabilité pour faute. Peut-être que le législateur, avec cette loi, on a perdu un peu de clarté dans les textes, puisque je vais vous citer l'article 142-1 du Code de la santé publique, qui est quand même assez incompréhensible. Or, le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, donc on commence par viser un cas d'exception, les professionnels de santé mentionnés la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Et après, on a un petit passage sur l'infection nosocomiale. Ce texte pose un principe de responsabilité pour faute avec des régimes qui sont des régimes distincts, des régimes dérogatoires. On a la responsabilité du fait des infections nosocomiales, nous avons la responsabilité du fait des produits défectueux et nous avons un régime d'indemnisation propre pour l'aléa thérapeutique lorsque les conséquences sont anormales avec les critères de gravité. Cette loi de 2002 peut paraître un peu anachronique dans une logique aujourd'hui où nous poussons vers de plus en plus d'indemnisation, vers des régimes qui sont détachés de la faute. Pourquoi conserver encore un régime de responsabilité pour faute? La philosophie s'explique et se comprend. L'art médical reste une science humaine, une science qui n'est pas parfaite. Et à côté de cette science humaine, la loi a mis en place un régime d'indemnisation sans faute, le régime pour l'aléa thérapeutique. Donc il y a une certaine philosophie compréhensive et acceptable. Cette primauté de la faute, elle n'est pas définie. Comme l'a dit monsieur le professeur Leduc, on nous dit qu'il faut prouver la faute médicale, certes, mais quelle faute? Comment l'apprécier? On a, en fonction d'analyse de la jurisprudence, une summa divisio qui se précise sur la faute. On a d'abord la faute de technique médicale, celle que nous allons voir ce matin. Et de l'autre côté, nous avons la faute liée au devoir d'humanisme. C'est une catégorie un peu plus large et dans la faute lié au devoir d'humanisme, nous retrouvons le défaut d'information, le défaut de consentement, le manquement au devoir d'assistance ou le manquement au secret professionnel. Donc seule la première catégorie de faute nous intéresse, la faute technique. Une faute qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. J'ai essayé, et je peux assurer l'assistance que j'ai vraiment essayé de trouver un peu de statistiques pour quantifier ce que représente la faute technique dans le contentieux aujourd'hui, que ce soit le contentieux strict ou dans les procédures CCI. Et j'ai eu bien du mal, y compris en regardant les chiffres de la CHAM, donc des assureurs, des professionnels de santé, et ce que j'ai réussi à trouver comme chiffre à peu près cohérent et intéressant, c'est que si vous prenez l'ensemble des dossiers dans lesquels vous allez avoir une indemnisation, donc ça comprend également l'aléa thérapeutique. Sur l'ensemble des dossiers, la faute strictement de technique médicale représenterait, je suis assez prudent, 24% des dossiers. Donc vous avez 24% des dossiers sur de la faute de technique médicale. Le reste, vous avez de l'aléa thérapeutique et vous avez aussi des fautes qui sont un peu mélangées. Vous avez de la faute de technique médicale, vous pouvez avoir un défaut d'information, une faute qui est partagée entre plusieurs professionnels de santé. Donc ce n'est pas aussi évident que cela de quantifier ce que représente aujourd'hui la faute de technique médicale. Doit-on dire que depuis l'arrêt Mercier, rien n'a changé sur l'appréciation de la faute, sur le portrait de ce professionnel de santé normalement consciencieux, diligent, attentif? Ce n'est pas tout à fait exact. Et je vais voir avec vous différents points, je vais faire différents focus sur des points qui restent en question, en discussion, en réflexion, et des points peut-être aussi de vigilance. Le premier point, c'est celle de l'appréciation du standard du praticien. Qu'entend-on par le professionnel normalement diligent? La loi de 2002 a apporté un article qui présente un petit intérêt. C'est l'article L1110-5 du Code de la santé publique, dans le chapitre préliminaire. Et dans cet article, on vise les connaissances médicales avérées, pas acquises, avérées. Certains auteurs ont essayé de distinguer les données médicales acquises qui étaient jusqu'à présent utilisées en jurisprudence des données médicales avérées. Avec une explication que je vous présente telle quelle, c'est que les données médicales avérées présenteraient un curseur un peu plus faible que les données médicales acquises. Les données médicales avérées, ce sont des données qui se satisfont d'une validation par la littérature médicale. Donc nous avons une simple validation par l'écrit. Alors que les données acquises présenteraient un degré d'exigence supplémentaire, il y aurait une validation non seulement par les littératures médicales, mais aussi une validation par les professionnels de santé, dans leur usage, dans leur pratique professionnelle. Je ne vais pas dire qu'il y a une présentation théorique et pratique, mais il y a un petit peu de ça quand même. Est-ce que la jurisprudence retient ces distinctions entre les données médicales acquises et les données médicales avérées? La réponse est non. Dans ce que j'ai vu en jurisprudence, on reste sur les données médicales acquises, qui ne sont pas plus explicitées, mais on reste sur cette expression. Je n'ai pas trouvé en jurisprudence la référence aux données médicales avérées, donc il me semble inutile de pousser plus loin la réflexion sur cette question. Pour apprécier le standard du praticien, que ce soit le judiciaire, le contentieux ou les CCI, vont avoir recours à une expertise médicale. La CCI, les personnes qui siègent dans la CCI, les magistrats ne sont pas des techniciens du médical, ils sont des techniciens du droit. Il ne leur appartient pas de se prononcer sur un art médical. Donc on va avoir recours à une expertise médicale, et sur l'objet de cette expertise médicale qui doit éclairer le juge sur un point technique, certains auteurs contemporains proposent que les experts aillent un peu plus loin et que dans la mission qu'on va leur confier, on leur demande de se prononcer sur le terme précis de faute. Donc on demanderait à ces experts de dire « y a-t-il faute médicale ?» Le civiliste que je suis est quand même un petit peu inquiet si on commence à demander à des experts, des médecins qui sont très compétents pour pratiquer leur art, de se prononcer sur une notion de droit. Je vais vous dire, chacun son métier. Il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur une notion de droit civil. Cette qualification, c'est-à-dire le passage des soins qui ne seraient pas conscientieux conformes aux données de l'acquise à la faute civile, ce travail de qualification appartient aux commissions ou aux magistrats. Mais ça ne relève pas du devoir, du rôle de l'expert. Et d'ailleurs, vous avez disposition du Code de procédure civile qui s'oppose à cette intrusion de la faute civile dans le travail de l'expert, sur les articles 232 et 238 du CPC. 232, l'expert éclaire le juge sur une question de fait, qui requiert les lumières d'un technicien. Et l'article 238, l'expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. La faute civile est l'apanage du travail du magistrat et du travail des commissions. Une précision toutefois sur ce que ne peuvent pas faire les magistrats ou les commissions. La limite dans ce travail des magistrats et des commissions, c'est la dénaturation d'un rapport médical. Que ce soit les commissions ou surtout les magistrats, ils ne peuvent pas dénaturer une appréciation qui serait claire, dépourvue d'équivoque dans un rapport. Je vous cite par exemple une décision dans laquelle les conclusions de l'expertise avaient relevé un retard à l'intervention qui a augmenté le risque d'inhalation bronchique du liquide digestif. Et la cour d'appel avait statué dans le sens suivant: le décès est dû à un aléa thérapeutique tenant à une complication post-opératoire. L'arrêt est cassé par la cour de cassation. Cassation pour dénaturation du rapport d'expertise de l'arrêt, qui a relevé que le diagnostic tardif n'avait aucune incidence sur les séquelles, malgré les termes contraires, clairs et précis du rapport. Pour une commission ou un magistrat qui serait confronté à un rapport médical avec des conclusions extrêmement claires, univoques, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, d'aucune imprécision et d'aucun travail d'interprétation. Soit la commission ou les magistrats valident tel quel le rapport médical et enregistrent ses conclusions en disant il y a faute ou il n'y a pas faute, soit l'option qui existe, c'est de demander une nouvelle expertise parce que le tribunal, la cour, la commission ne s'estime pas suffisamment éclairée, c'est bien le terme utilisé dans le CPC, ne s'estime pas suffisamment éclairée par les conclusions. Ce n'est pas parce qu'un rapport est clair, qu'il ne souffre d'aucune dénaturation, qu'il est convaincant. Donc on ne peut partir sur une deuxième expertise. Mais ce que la commission ou les magistrats ne peuvent pas faire, c'est aller à l'encontre d'un rapport clair et univoque. La seule voie, c'est celle de la nouvelle expertise. Que doit-on mettre, donc toujours sur l'appréciation du standard juridique, que doit-on mettre pour apprécier ce standard juridique ? On parle de règles de l'art. Professeur Penaud l'a très bien résumé. Ce qu'étaient les règles de l'art. Elles sont informelles, mouvantes, évolutives, plurielles. Avec ça, bon courage pour définir un standard juridique. On va inclure dans le standard juridique, dans le mode d'appréciation du travail du médecin, les traités médicaux, les ouvrages de référence, les articles parus dans les revues qui sont reconnus, les actes des congrès médicaux. Une question n'est toujours pas tranchée, c'est celle des études de cas. Une étude de cas, comme une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est pas parce qu'on a une information dans un article que cela suffit pour être validé par les experts. Mais à partir de combien d'articles, de combien d'études de cas, peut-on dire qu'il y aura un consensus ? Justement, le consensus, vous connaissez certainement les conférences de consensus. Conférences de consensus réunissent des experts qui doivent trancher, dégager des conclusions diagnostiques, thérapeutiques, sur des thèmes qui divisent la communauté médicale. Donc vous n'avez pas des conférences de consensus sur toutes les questions. Si la question médicale est tranchée, qu'il n'y a pas de discussion, on ne va pas faire de conférence de consensus. Si à l'inverse, on a une discussion entre les praticiens, on va envisager cette conférence de consensus. La conférence de consensus, elle a un immense avantage, c'est qu'elle va réunir des opinions a priori divergentes sur une question thérapeutique, une question de diagnostic, pour essayer, c'est le sens propre du terme consensus, pour en définir des conclusions homogènes, consensuelles, qui pourraient être utilisées derrière par les professionnels de santé. Le professeur Penaud, lui, est assez critique sur ces conférences de consensus en disant qu'elles ne présentent pas des garanties d'indépendance dans les conclusions. Donc c'est un élément qui est pris en discussion et qui est pris en compte par les experts. N'oublions pas que les conférences de consensus n'ont pas de pouvoir normatif. Ce sont des conférences de consensus, elles ne s'imposent pas, ce sont des guides, des indications qui sont laissées toujours à l'appréciation du médecin qui peut se dégager de ces conférences de consensus si elle estime que le cas particulier qui l'intéresse ne rentre pas dans ces conférences de consensus. La deuxième norme récente qui est intéressante, ce sont les références médicales opposables, les RMO. Ces références médicales opposables qui sont définies par l'HAS depuis 2004 ont une visée de bonne pratique médicale. Derrière, il y a aussi l'intérêt économique quand même. Donc le but de ces références médicales, c'est d'obtenir une normalisation technique sur des pratiques médicales pour, à terme, éviter un surcoût sur certaines thérapeutiques. Et dire que aux médecins libéraux surtout qu'il vaut mieux respecter ces RMO, ces références médicales opposables, la sanction, parce que ces références médicales opposables sont comme elle l'indique, sont opposables au professionnel de santé. Celui qui ne respecte pas les RMO pourrait avoir une sanction pécuniaire, et on voit de temps en temps des médecins qui sont sanctionnés sur ce critère. L'opposabilité des RMO ne se discute pas. C'est la valeur de ces références médicales opposables. Elles n'ont pas de visée en termes de responsabilité. On parle de technique, on parle éventuellement d'un impact économique, mais elles ne sont pas vues et ne sont pas décidées par la HAS pour que, peut-être derrière, le non-respect de ces références médicales opposables constitue une faute. La prudence s'impose sur ces références médicales opposables. Le seul respect par un médecin de ces références médicales opposables ne veut pas dire qu'il n'a pas commis de faute. Et l'inverse, ce n'est pas parce qu'un médecin n'a pas respecté la référence médicale opposable qu'il a forcément commis une faute. C'est un élément qui est porté au débat, qui est porté comme les conférences de consensus, qui est porté à la réflexion, mais l'expert n'est pas lié par ces références médicales opposables. Un point d'attention d'ailleurs sur ces références médicales opposables, à la différence des conférences de consensus, la conférence de consensus, elle est régulièrement mise à jour selon l'évolution des thérapeutiques et des progrès de la médecine. Les références médicales opposables n'ont pas la même régularité de mise à jour. Et il subsiste, je ne vais pas rentrer dans le débat puisque je ne suis pas expert sur cette question, mais j'ai vu qu'un certain nombre de références médicales opposables sont aujourd'hui jugées obsolètes. C'est un argument supplémentaire pour être méfiant sur la portée de ces références médicales opposables en termes de responsabilité, parce que si vous appuyez sur des références médicales opposables qui sont obsolètes, quel intérêt, quelle pertinence de les utiliser dans un débat en termes de responsabilité. Voilà pour le premier point que je voulais aborder avec vous, la question du référentiel du standard juridique du professionnel de santé. Le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est celle de l'objet de la preuve de la faute technique, et plus précisément, faut-il prouver un fait ou une maladresse fautive? Je suis sur un point particulier. Le fait, la maladresse fautive. Si je parle de cette question, c'est en référence à l'arrêt de 1997, du 7 janvier 1997, un arrêt dans lequel la Cour de cassation avait censuré un arrêt d'appel, ayant énoncé qu'un chirurgien n'avait pas commis de maladresse fautive. Ça, c'était le terme, l'expression utilisée par la Cour d'appel. Et la Cour de cassation avait dit cassation, alors même que la décision constatait par ailleurs que la blessure de l'artère sous-clavière avait été le fait, pas la faute, avait été le fait du chirurgien. On ne parle pas de faute, on parle de fait. Donc la question que les commentateurs se sont posées à la suite de cela, c'est suffit-il de rapporter la preuve d'une application factuelle du chirurgien, puisque c'est surtout sur la chirurgie qu'on a ce genre de questions. Suffit-il de prouver la seule implication factuelle du chirurgien pour démontrer, en lien avec un dommage, pour démontrer qu'il y a responsabilité? À suivre cette piste, on s'approche dangereusement d'une obligation de résultat, ce qui n'est pas quand même l'état d'esprit ni de l'arrêt Mercier ni de la loi de 2002. Par la suite, la Cour de cassation a, entre guillemets, rectifié un petit peu le tir dans plusieurs décisions, en indiquant bien qu'il s'agissait toujours d'une responsabilité pour faute, mais qui est appréciée avec rigueur lorsqu'on parle du geste chirurgical. La Cour de cassation utilise assez fréquemment l'expression d'obligation d'exactitude du geste chirurgical. J'ai essayé, je ne suis pas le premier, mais j'ai essayé avec d'autres auteurs de comprendre la jurisprudence sur le geste chirurgical. Et on pourrait faire, en quelque sorte, une sous-division entre deux situations. Vous avez la première situation, celle où le chirurgien va blesser l'organe qu'il était censé soigner. Et sur cette blessure, sur cet acte, on va avoir les exigences traditionnelles d'une faute du chirurgien, une faute appréciée avec compréhension, parce que le chirurgien, ce n'est pas un homme ou une femme parfaite, il fait de son mieux, et peut-être qu'il a blessé l'organe qu'il était censé soigner, peut-être que ce n'est pas lié à une faute, peut-être qu'on est sur un aléa thérapeutique, à condition qu'on soit sur les critères de recevabilité. Et vous auriez la deuxième branche de cette summa divisio lorsque le chirurgien blesse un organe qui n'était pas celui qu'il devait soigner. Et lorsque le chirurgien blesse cet organe qui n'a, si j'ose dire, rien demandé, la jurisprudence est plus exigeante. Et on a un geste, on a l'exigence là de geste chirurgical précis. Deux décisions, par exemple, il s'agissait dans la première décision d'une section de l'artère propriété, pourtant je m'étais entraîné, lors d'une ligamentoplastie du ligament croisé, et la Cour de cassation a dit « La Cour d'appel ne pouvait exclure la faute du chirurgien sans constater que cette artère présentait chez madame une anomalie rendant son atteinte inévitable. » S'il y a une disposition particulière de la patiente qui pourrait expliquer la maladresse du médecin, il n'y aura pas de responsabilité. S'il n'y a pas de particularité anatomique de la personne et qu'un autre organe que celui visé par l'opération est blessé, on sera assez fréquemment dans la faute. Dans le deuxième cas, c'était l'extraction d'une dent de sagesse et le chirurgien dentiste avait atteint le nerf sublingual. Pas d'anomalie chez la patiente, la faute a été retenue. Donc la sévérité, retenez que la sévérité de la jurisprudence, elle touche surtout le geste du chirurgien sur un organe qui n'était pas concerné par l'intervention. Si c'est l'organe qui était concerné par l'intervention, on reste sur des diligences ordinaires. Je passe un peu plus vite puisque le temps passe aussi très vite. Je vais passer là-dessus. Troisième point, le temps passe très très vite. Troisième point de mon intervention, le recours à la faute virtuelle. Le danger de cette jurisprudence, il est évident. C'est une responsabilité pour faute prouvée. Nous ne sommes pas dans l'obligation d'information, nous ne sommes pas dans les conséquences de l'arrêt Hedrol de 97 avec un renversement de la charge de la preuve. C'est à l'usager, qui n'est pas encore une victime, c'est à l'usager de santé de démontrer qu'il y a bien une faute. Et on a vu certaines décisions de justice qui ont déduit la faute de l'existence d'un préjudice. En envisageant successivement plusieurs hypothèses pour expliquer le préjudice et dans le doute, retenant qu'il y avait forcément eu une faute à la base de ce préjudice. Ce n'est pas une évolution que l'on peut valider puisqu'on est sur la faute virtuelle. J'entendais hier à la Cour administrative d'appel un dossier dans lequel les avocats s'expliquait sur un rapport d'expertise dans lequel Il était indiqué que le chirurgien avait blessé l'intestin grêle. Et les experts, il y a eu deux rapports d'expertise, les experts disaient il y a deux explications. Non, trois explications, pardon. On ne sait pas laquelle est la bonne. Trois hypothèses. Deux des hypothèses ne sont pas liées à une maladresse fautive du chirurgien. La troisième, oui. D'accord. Donc on a trois hypothèses, deux qui ne sont pas fautives, on n'était pas dans les critères de recevabilité pour être sur l'aléa thérapeutique, donc deux qui ne sont pas fautives, une qui est fautive. Pourquoi devrait-on condamner le chirurgien? Il y a un doute. Le doute profite au médecin. S'il y a doute sur la faute, on ne peut pas condamner le chirurgien. On a des décisions qui sont un petit peu étonnantes. Par exemple, cette décision qui est un peu ancienne, qui date de 1988, la Cour de cassation qui avait approuvé les juges du fond, la Cour de cassation avait relevé l'existence de trois hypothèses possibles à l'origine de la diffusion anormale du liquide anesthésique. Et la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir dit que, quelle que soit l'hypothèse envisagée, l'éventualité considérée, le médecin a commis une faute. Oui, il y a trois hypothèses, mais on ne sait pas quelle hypothèse est la bonne. Alors, peut-on dire qu'il y a forcément faute alors qu'on ne connaît pas le processus dommageable? Moi, je trouve ça un petit peu embêtant. Cette faute virtuelle, on peut penser qu'elle est heureusement très marginale et que cette faute virtuelle vise à répondre à des cas très particuliers, très pointus, où on a... Le doute existe, mais on sent bien que les magistrats sont un peu embêtés de laisser le dossier sans indemnisation. Cette faute virtuelle n'a pas l'étoffe pour perdurer, parce qu'aujourd'hui, on a un système de réparation, d'indemnisation de l'aléa thérapeutique qui permet, quand il n'y a pas de faute, d'avoir une indemnisation. Donc la faute virtuelle, elle subsisterait dans les cas où il n'y a pas de faute prouvée, où la personne ne peut présenter un dossier d'indemnisation parce qu'elle est en dessous des seuils pour l'aléa thérapeutique. Ce sont des hypothèses extrêmement marginales. Dernier point, et c'était le plus long, donc forcément il sera le plus court. Dernier point qui va retenir notre attention, c'est la catégorie des fautes de technique médicale. C'est un peu un inventaire à la Prévert. Donc je vais faire une petite synthèse sur les différentes fautes de technique médicale. La première, c'est la faute de diagnostic. La faute de diagnostic, la simple erreur, je parle d'erreur, la simple erreur de diagnostic n'est pas fautive. Un médecin peut légitimement se tromper lorsque les symptômes qu'il a vus peuvent l'amener sur différentes hypothèses de diagnostic. Donc l'erreur de diagnostic n'est pas en soi fautive. Le diagnostic peut devenir fautif, le diagnostic erroné peut devenir fautif lorsqu'il n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art. Ou bien lorsque le médecin a ignoré certains symptômes. Je me souviens d'un cas, ça fait un peu, excusez-moi, Pierre Belmar raconte ses histoires, mais je me souviens d'un cas, chacun son expérience, je me souviens d'un cas où le médecin généraliste avait vu un enfant, bas âge, pas de sel, pas de gaz depuis deux jours, une forte douleur abdominale, des vomissements, et le médecin est parti, comme dans 99% des cas, sur une gastro-entérite de base. Allez, un peu de motilium, du repos, et ça va partir. Malheureusement, c'est une occlusion intestinale, et l'enfant est décédé quelques heures plus tard. Le médecin a été poursuivi, expertise, et les experts ont dit, après on est parti sur l'aléa thérapeutique, mais les experts ont dit il y avait 99%, les symptômes correspondaient pour 99% à une gastro-entérite, tout simple. Il n'y avait pas de risque d'inquiétude, donc il y a une erreur diagnostique, c'est une erreur compréhensible, pas acceptable sans doute pour les parents, mais compréhensible, et on part sur l'autre voie, celle de l'aléa thérapeutique. Dans le diagnostic, il y a un cas à part, c'est le diagnostic anténatal. Je ne vous refais pas l'histoire de l'arrêt Perruche, mais là, le diagnostic anténatal, c'est dans le code de l'action sociale et des familles qu'on retrouve ce régime particulier. Les parents peuvent engager la responsabilité du personnel qui a suivi la grossesse lorsque ce personnel n'a pas décelé un handicap touchant l'enfant, mais les parents doivent alors prouver une faute caractérisée. C'est gentil de nous apporter cette expression parce que la faute caractérisée n'est pas définie. Ce n'est pas une faute grave. Donc la faute caractérisée, elle renvoie, on a la même expression dans la responsabilité pénale avec le délit d'imprudence, où on est aussi sur la faute caractérisée. Et en jurisprudence, la faute caractérisée, c'est une faute qui se révèle par son intensité et son évidence. La jurisprudence ne parle pas de gravité, elle parle de l'intensité et de l'évidence. Le cas classique, quoi classique ? Exceptionnel, j'espère. Le cas classique exceptionnel, c'est les trois échographies dans lesquelles le professionnel avait noté la présence de tous les membres avec les extrémités et l'enfant naît avec une agénésie de l'avant-bras droit, donc il n'a pas de bras. Et le médecin, il est un peu embêté pour dire « bah, moi j'ai vu ». Non, vous n'avez pas pu voir quelque chose qui n'existait pas. Vous avez commis une faute, mais ce n'est pas une faute d'interprétation des clichés, c'est une faute caractérisée, c'est une faute d'une certaine intensité parce qu'on ne peut pas accepter cette marge d'erreur lorsque vous interprétez des clichés échographiques. Première faute, la faute de diagnostic. Deuxième type de faute, c'est la faute de prescription thérapeutique. La faute de prescription thérapeutique, le médecin, le professionnel de santé dispose toujours d'une liberté de choix thérapeutique, c'est rappelé dans le code de déontologie et dans le code de santé publique. La faute de prescription thérapeutique, c'est d'avoir tardé à réagir lors de la dégradation de l'état du patient, ou au contraire d'avoir été trop hâtif sur la mise en œuvre d'une intervention. La réaction tardive, j'ai eu cette réflexion un jour dans une expertise où j'assistais une famille pour une personne décédée, et je disais, mais pourquoi est-ce que dans ce cas particulier, le CHU, vous ne vous êtes pas précipité en réanimation? Est-ce qu'il ne fallait pas tout de suite envoyer la personne en réanimation? Et ça, on dit, surtout pas. La réanimation, c'est un nid à microbes, à bactéries, à virus, etc., avec des résistances de la part de ces germes. Et le travail est très difficile, c'est à partir de quand doit-on emmener quelqu'un en réanimation en ayant le risque que cette personne dont l'état de santé est fragilisé contracte une infection sur le site de la réanimation. Donc on doit juger jusqu'à quand on peut soigner en chambre, à partir de quand on doit envoyer en réanimation, en se disant que la balance bénéfice-risque, elle est à l'avantage du patient. Donc c'est pas aussi évident de dire dès que l'état de la patiente se dégrade, faut partir en réanimation. Et si vous partez pas en réanimation, il y a eu un retard dans la prescription thérapeutique. C'est pas aussi évident que cela. Le choix thérapeutique doit être également adéquat. La faute dans la conduite des soins, j'ai des statistiques un peu plus sûres puisque c'est l'essentiel des fautes de technique médicale reprochées aux établissements de santé. Les deux spécialités qui sont les plus courues pour les fautes, c'est la chirurgie orthopédique, 40% des dossiers de réclamation pour la chirurgie orthopédique, et l'obstétrique qui représente 20%. Donc vous avez 60% du contentieux sur la conduite des soins uniquement avec l'orthopédie et l'obstétrique. Donc c'est la majorité. Les chirurgiens, ils sont concernés par les perforations, lésions, déchirures d'organes. J'ai même vu parfois des cas où les chirurgiens avaient confondu les organes. Ça fait un peu froid dans le dos. Ces chirurgiens doivent la meilleure des diligences, avec une décision qui a été assez favorable. Compréhensible, mais favorable à ces chirurgiens, c'était une compresse qui avait été retrouvée dans le corps d'un patient. La compresse dans le corps d'un patient, ce n'est pas tout à fait sa place, donc il y a bien eu une faute quelque part. Oui, mais le problème, c'est que la patiente avait été opérée à deux reprises. Et les experts n'ont pas pu déterminer lors de quelle intervention cette compresse avait pu être oubliée. Les deux chirurgiens étaient poursuivis. Il y avait une demande de condamnation in solidum en disant « Allez, si on ne sait pas, on va condamner les deux ». La justice a rejeté l'action en responsabilité, disant qu'il y avait un doute. Le doute profitait aux médecins. On ne savait pas qui était à l'origine de l'oubli de cette compresse. Une catégorie de chirurgiens est un peu plus attentive. Faut que j'accélère. Oh, deux pages, mais ça va être résumé en une seule page. Une chirurgie particulière, chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, on n'est pas dans l'obligation de résultat, on est toujours dans l'obligation de moyens. On a une exigence, une sévérité des juges, parce que ce n'est pas une chirurgie à visée thérapeutique, c'est une chirurgie à visée esthétique. Et les juges sont donc particulièrement sévères sur ce point. La dernière faute que je vais évoquer, c'est la faute de surveillance post-opératoire. Une fois que le chirurgien est intervenu, ça y est, c'est plus mon patient, je le laisse aux mains de l'établissement de santé. C'est à l'établissement de santé maintenant de faire les soins de suite et de surveiller. Non, le chirurgien, on a l'obligation de continuité des soins. Le chirurgien doit surveiller son patient après. Et dans ces fautes de surveillance, on a souvent une double responsabilité. On a à la fois la responsabilité du chirurgien pour ne pas avoir suffisamment suivi son patient après l'intervention et la responsabilité de l'établissement de santé pour ne pas avoir informé en temps et en heure le chirurgien. Un cas par exemple très simple, un chirurgien qui opère une personne, c'était un cancer de la thyroïde, l'intervention est compliquée, longue, le chirurgien repart chez lui après le travail accompli. Dans la nuit, un hématome se déclare et l'infirmière diplômée d'État qui est là va appeler le chirurgien, mais elle va avoir la mauvaise présentation de l'hématome. Donc le chirurgien a une mauvaise information, il ne peut pas appréhender exactement ce qui se passe sur son patient, et derrière le patient fait un arrêt cardio-respiratoire et décède. Responsabilité à la fois de l'établissement de santé, parce que l'infirmière n'a pas donné les bonnes informations et n'a pas été assez pressante à l'égard du chirurgien. Responsabilité aussi du chirurgien, parce que au moindre incident, élément d'inquiétude, il aurait dû revenir sur place pour faire ce qu'il fallait. Juste un mot de conclusion. Ah oui, j'ai un petit peu plus passé. Juste un mot de conclusion pour rassurer, je ne sais pas si les professionnels de santé, mais pour les rassurer, la sinistrabilité. On n'est pas dans un contentieux à l'américaine avec ce que j'entends parfois, oh là là, ça va coûter des milliards d'euros, il y a des millions de procès en passe. Non, la sinistrabilité, elle est de 1,40% aujourd'hui. Les chiffres de saisine des CCI, le chiffre du contentieux judiciaire, il est plutôt stable. On n'a pas une augmentation en flèche. Il y a une augmentation des indemnisations, ça c'est un autre débat. Mais sur l'augmentation du contentieux, on a 15 millions d'interventions par an. Sur ces 15 millions, heureusement, il n'y a qu'une toute petite partie qui fait l'objet d'un problème médical, d'un dommage médical. Et sur cette toute petite partie, il y a aussi une petite proportion qui va partir en CCI ou qui va partir en contentieux médical. Donc il faut raison garder quand on parle de raison de responsabilité médicale. Je vous remercie.